Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Le monde féminin.
Hey you, over there, please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Au Nigeria, le 12 mai 2022, des dizaines d'étudiants musulmans de l'école Shehu Shagari à Sokoto, dans le nord-ouest du pays, ont sauvagement lapidé et brûlé une étudiante chrétienne, Deborah Samuel, accusée de blasphème. La vidéo insoutenable du meurtre, dans laquelle les auteurs se vantent de leur crime, a circulé sur les réseaux sociaux. Le sultan et l'évêque de Sokoto ont condamné le meurtre et demandé que les coupables soient traduits en justice. La police a arrêté des hommes identifiés sur la vidéo et en recherche d'autres. Par ailleurs, 4 jours plus tard, environ 300 musulmans se sont réunis devant la maison d'une autre femme qu'ils accusent de blasphème dans la banlieue de Maïdougouri. Ils ont été dispersés par la police qui a tiré en l'air et lancé des grenades lacrymogènes. Dans le nord du Sénégal, 3 sages-femmes ont été condamnées à Louga le 11 mai à 6 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger après le décès dans un hôpital public d'une femme enceinte ayant souffert plus de 20 heures avant de mourir. Elles étaient de garde la nuit où est survenu le décès d'Astou Sokna et de l'enfant qu'elle portait le 1er avril. Le personnel aurait refusé sa demande de césarienne et menacée de la chasser si elle insistait. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a reconnu le 14 avril que la mort de Madame Sokna aurait pu être évitée. Le directeur de l'hôpital a été révoqué. Ce drame a suscité une vague d'indignation contre les carences du système de santé publique dans le pays. Tunisie, un homme qui se faisait passer pour un guérisseur spirituel a été arrêté le 10 mai après la diffusion d'un reportage dans lequel il reconnaît avoir dupé des centaines de femmes. Ses propos ont été enregistrés par une journaliste d'Aliwar Etounsi et qui se faisait passer pour une cliente potentielle. Bolga Kaouli persuadait ses victimes que des rapports sexuels avec lui étaient le remède pour exorciser la magie noire. « Cette nuit, tu vas coucher avec moi et tu guériras à 1000%. » dit-il à la journaliste lors d'un rendez-vous filmé par une caméra cachée. Se fiant à la naïveté de ses potentielles proies, il fixait pour chaque cliente un certain nombre de séances particulières. À la journaliste qui lui a décrit des troubles imaginaires, il a conseillé 14 séances sexuelles pour 210 dinars. Kenya, l'ancien Premier ministre Raila Odinga a annoncé le 16 mai avoir choisi l'ancienne ministre de la Justice, Martha Karua, comme colistière pour la présidence du 9 août. Nous avons décidé que le titulaire de ce poste devait être une femme, a déclaré M. Odinga, soutenu par le président sortant Uhuru Kenyatta. Madame Carroix, candidate à la présidence en 2013, avait défendu la victoire de Mwai Kibaki en 2007, contestée par Odinga. Plus de 1100 personnes ont perdu la vie dans les violences post-électorales qui ont débouché sur un gouvernement d'union nationale avec Odinga comme Premier ministre. Martha Karua, alors ministre de la Justice, avait démissionné en 2009, invoquant une ingérence dans ses fonctions. Le président Emmanuel Macron, réélu pour un second mandat le 24 avril 2022, a nommé le 16 mai la ministre du Travail, Elisabeth Borne, à la tête du gouvernement, qui est ainsi devenue la deuxième femme première ministre. Elle a dédié sa nomination à toutes les petites filles et rendu hommage à sa devancière Edith Cresson, nommée première ministre en 1991 par le socialiste François Mitterrand. Madame Cresson a salué un très bon choix, mais a déploré qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour retrouver une femme à ce poste, jugeant la classe politique française particulièrement arriérée, selon ses propres termes.
Parole de femme.
Sur l'île d'Idjoué, au cœur du lac Kivu, en République démocratique du Congo, des femmes subviennent à leurs besoins grâce à la récolte de café. L'initiative de Marceline Boudza, fondatrice de l'organisation Reconstruire l'espoir des femmes, permet également à cet arabica de haute altitude, à la saveur unique, d'être dégusté dans le monde entier. Ginny Kapumbu-Villa nous en dit plus.
Sous le soleil du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, des femmes s'activent dans une plantation de café de l'île d'Idjoué, cueillant les cerises qui, depuis quelques années, leur permettent de gagner leur vie. L'île de quelques 300 km², située au milieu du lac Kivu, produit un arabica reconnu.
Le café congolais est spécial par rapport à d'autres cafés parce que c'est un café de haute altitude. C'est un café qui a la saveur exceptionnelle. C'est avec l'arôme exceptionnel aussi. Et avec son sol, le sol est volcanique. Voilà tous ces éléments-là font le café congolais des spéciales.
Il y a 9 ans, Marceline Boudza a fondé Rebuilt Women's Hope, RWH, une ONG basée à Bukavu, dans le sud Kivu, pour soutenir l'autonomisation des femmes à travers la culture du café.
Maintenant là, ça fait 9 ans que nous sommes en train de travailler et je ressens vraiment que nos objectifs sont en train d'être atteints. Parce que maintenant là, les femmes peuvent sourire, les femmes peuvent être autonomes financièrement. Et puis, elle régénère, elle crée de l'argent.
Avec bonheur, c'est grâce à cette autonomie financière que Rosette a pu notamment scolariser ses enfants et pourvoir aux besoins de sa famille.
Ça fait 6 ans que je travaille dans le domaine du café. Ce boulot m'a permis d'envoyer mes enfants à l'école et de les nourrir.
Marceline ne souhaite pas s'arrêter là. Son café est déjà très apprécié aux États-Unis, en Europe et en Asie. Elle souhaiterait voir sa production doublée de 190 à 380 tonnes dans un avenir proche.
Ghana, des productrices de café prennent les devants grâce à un semis de café modifié et de nouvelles pratiques agricoles. Ces méthodes aident le pays à atteindre une croissance régulière de la production de café qui avait nettement diminué au cours de la dernière décennie. Plus de précisions avec Michel Joseph.
Les scientifiques de l'Institut de recherche sur le cacao au Ghana affirme avoir développé 2 nouvelles variétés de plants de café de bonne qualité. Abraham Akpoti, chercheur.
They are very high yielding and then they are relatively Ils ont un rendement très élevé, ils sont relativement tolérants aux ravageurs, aux maladies et au stress hydrique. Ils ont une bonne qualité gustative car il s'agit de l'apprécier. Ils ont très bon goût.
Ces nouveaux plans ont relancé l'industrie du café dans laquelle les femmes jouent un rôle important. Le nombre d'agricultrices a progressé de 22% ces 5 dernières années. Amy Beth Akukwanson, torréfacteur.
Qu'est-ce que cela fait pour nos agricultrices en particulier? C'est qu'elles sont capables de cultiver du robusta sans se casser les dos parce que maintenant, les efforts qui y sont consacrés sont moindres.
Selon le chercheur Michael Owusu-Manu, les installations de production de grains de café ont également augmenté, ce qui a réduit la quantité de grains de café vert exportés pour la production.
Un certain nombre de torréfacteurs locaux sont entrés dans le système et donc l'exportation a diminué à un point où presque plus de café n'est exporté parce qu'ils ramassent tout. Vous voyez donc que les chiffres des exportations ont vraiment baissé, mais pas nécessairement la production elle-même.
Plus de la moitié des 15 nouvelles entreprises de torréfaction appartiennent à des femmes qui paient plus que les exportateurs pour les grains des agriculteurs locaux. Madame Quanson utilise des épices et des saveurs ghanéennes dans ses produits, qui sont vendus sur les marchés locaux et exportés à l'étranger, notamment aux États-Unis et en Europe.
Vous pouviez voir que la culture du café s'est développée. Les gens avaient également accès aux marchés mondiaux, donc ils voyageaient et comprenaient l'importance du café en général. Il était alors évident pour moi que la révolution arrivait au Ghana et nous devions nous positionner de manière à pouvoir aussi changer la donne dans l'industrie du café à l'échelle mondiale.
Le gouvernement ghanéen dit que son objectif est d'augmenter la culture du café pour surpasser la production de cacao du pays, ou du moins l'égaler afin de générer plus de revenus.
Si je le pouvais.
Au Zimbabwe, plus d'un tiers des filles sont mariées avant l'âge de 18 ans et plus de la moitié dans certaines régions. Une lueur d'espoir cependant, puisque le pays a adopté une nouvelle loi qui criminalise le mariage des enfants. Les détails avec Dili Diko.
Porsha Nobula, 19 ans, est originaire de la région de Mbire, près de la frontière zimbabwéenne avec la Zambie et le Mozambique. Elle dit qu'elle a été violée à l'âge de 15 ans alors qu'elle rentrait de l'école, qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a ensuite été forcée d'épouser son agresseur.
Ce mariage n'a jamais été ma volonté. J'ai été forcée par mes parents. J'étais brillante à l'école et les hommes ont gâché ma vie.
Ce cas n'est pas inhabituel selon les défenseurs des droits des enfants.
La principale cause des mariages d'enfants ici, c'est que les enfants parcourent de longues distances pour se rendre à l'école, environ 12 ou 13 kilomètres dans chaque sens. Ainsi, les filles finissent par quitter l'école et comme il n'y a rien à part des formations en menuiserie ou en couture, elles finissent par être mariées.
Des défenseurs des droits et des groupes à but non lucratif travaillent avec le gouvernement pour réduire les mariages d'enfants à Mbire, dans la province centrale du Mashonaland, où plus de la moitié des filles, soit 52%, se marient à avant d'avoir 18 ans.
Nous menons des campagnes de sensibilisation lors des rassemblements comme celui-ci dans l'objectif de réduire les mariages d'enfants. Nous menons ces campagnes auprès des parents et des filles et nous leur enseignons leurs droits sexuels et reproductifs.
Les chefs traditionnels sont accusés de promouvoir la pratique des mariages précoces ou de fermer les yeux dessus. Le chef Chitsongo, un chef traditionnel à Mbire, dit qu'il punit les parents qui marient leurs enfants en leur infligeant une amende.
Vous amenez un enfant à l'hôpital lorsqu'il tombe malade, c'est le droit de l'enfant. Nous rencontrons donc régulièrement les parents et également des groupes non gouvernementaux qui mènent des campagnes de sensibilisation.
Les juristes disent qu'une nouvelle loi criminalisant le mariage des enfants devrait aider à lutter contre le problème.
Il y avait des lacunes et des failles en ce qui concerne le moment exact où une personne pouvait contracter légalement un mariage. Cependant, il est nécessaire que la loi sur la réforme pénale et la codification introduise un texte clair qui stipule que le mariage des enfants est un délit et introduise également des lignes directrices sur la détermination de la peine pour les auteurs de mariage d'enfants.
Portia Nobula espère que d'autres filles n'auront pas à endurer ce par quoi elle est passée. Les personnes reconnues coupables en vertu de la nouvelle loi sur l'interdiction du mariage des enfants risquent jusqu'à 10 ans de prison et les défenseurs des droits de l'enfant continuent à faire pression pour une peine plus sévère.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
En Côte d'Ivoire, Anoumabo, village logé au cœur du Grand Abidjan, a reçu récemment son festival des musiques urbaines. Le FEMMOI a tenu sa 14e édition sous le thème « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes » du 10 au 14 mai à Abidjan et San Pedro. Alain Amonchi s'y est rendu, voici son reportage.
Entrepreneuriat et employabilité des jeunes est le thème de la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. À Salfo, lead vocal du groupe Magic System et par ailleurs commissaire général du FEMMOI veut une fois encore, à travers cette édition, démontrer que la culture reste et demeure un maillon essentiel dans le développement des nations africaines.
Le FEMMOI 14 sera la tribune idéale pour présenter les programmes et politiques efficaces qui répondent aux défis auxquels sont confrontés les jeunes dans leur transition vers l'emploi en Afrique.
Depuis la 12e édition, une tribune est offerte à un pays invité pour la présentation de son patrimoine culturel. La République démocratique du Congo est à l'honneur cette année.
La République démocratique du Congo a considéré la tragique événement comme le renforcement des liens ombilicaux qui unissent nos deux pays dans les domaines de la culture, des arts et du patrimoine. Afin que la rumba et Papa Wemba soient dans une pérennisation d'une collaboration culturelle variée et fructueuse.
Magic System, organisateur du festival, s'est engagé à redonner de l'espoir à la communauté. Ils viennent d'Anoumabo et sont familiers aux défis des enfants et jeunes pour accéder à l'éducation. 3 écoles seront inaugurées à la prochaine rentrée scolaire, ce qui portera à 9 le nombre d'écoles offertes. Depuis 2011, plus de 8000 enfants ont été inscrits dans les écoles Magic System.
Tous ces jeunes qui sortent de notre système scolaire étaient tous qualifiés, étaient tous diplômés avec tous de bons niveaux. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas un secteur productif à même d'absorber toute cette main-d'œuvre. C'est pour ça que l'entrepreneuriat apparaît comme l'une des solutions. Je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est l'une des solutions. Pour entreprendre, il faut accepter de se former.
Le FEMMOI 14 réunit une dizaine d'artistes de 7 nationalités sur scène à Abidjan et à San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Alain Amonchi pour VOA Afrique Abidjan.
Croyez en vos rêves, rien n'est impossible, ça va se réaliser. Et inspirons-nous, créons notre histoire, l'Afrique que nous voulons voir demain.
Le couvert forestier a perdu son lustre d'antan. de 16 millions d'hectares en 1960, il en reste moins de 3 millions aujourd'hui. C'est pourquoi des programmes de reboisement sont mis en place, avec un accent particulier sur la sensibilisation des jeunes qui sont mis à contribution dans ce travail de longue haleine. Qu'en est-il de ce reboisement à l'heure de la COP15? Un élément de réponse dans un reportage de Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan.
Dégradation des sols et avancée du désert, la Côte d'Ivoire paye un lourd tribut, comme le relève le président ivoirien à l'ouverture des travaux de la COP15, Alassane Ouattara.
En Côte d'Ivoire, la superficie forestière qui représentait 16 millions d'hectares dans les années 1900 n'était plus que de 2,9 millions d'hectares en 2021, donc une baisse de 80%. Au rythme actuel, celle-ci pourrait disparaître entièrement à l'horizon 2050 si rien n'est fait.
Pour renverser la situation, des campagnes ont été lancées. Un jour pour 1 million d'arbres et un jour pour 5 millions d'arbres. Au jardin botanique non loin de l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody, une équipe de l'opération pour planter des arbres a été initiée par des organisations des eaux et forêts, des chefs d'entreprise et des jeunes. Nicolas Apata, agent des eaux et forêts.
Aujourd'hui, le défi à relever est très énorme. Nous devons planter chaque année 300 millions d'arbres. Et donc, toutes les parties prenantes doivent pouvoir poser leurs actes pour qu'on y arrive.
L'opération concerne aussi les plus jeunes et les jeunes. Chez qui fleure Valérie, 9 ans.
Ce projet nous permet de nous instruire et connaître la valeur des plantes.
Un symbole pour Rose Fabiola, 12 ans.
J'étais très heureuse la première fois. Planter un arbre, c'était un honneur pour moi.
Samuel Kofi, étudiant.
Je suis d'abord fils d'un planteur, donc j'ai fait le village. Je connais l'activité du planting, donc c'est cela que je suis motivé.
À Aniama Adjamé, l'opération a regroupé tous les commerçants de bois d'Adjamé, de Cocody, de Yopougon et Kumasi. Gilbert Yapi, fonctionnaire à la retraite.
Il faut qu'il y ait des forêts un peu partout, comme à l'ancien temps, nos forêts sacrées. Quel que soit ce qui se passait, on n'y allait pas. Et ça crée un microclimat pour permettre de rendre la vie agréable.
Aya Yaou, au nom des commerçants de bois.
Nous voulons dire à la population qu'elle se rejoigne à nous pour qu'on puisse ensemble stopper la désertification.
Et les producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire ont opté pour le concept cacao culture zéro déforestation. Camboussier, président de la fédération.
La campagne passée, nous avons reçu des plans d'arbres du Conseil du Café Cacao pour commencer à les mettre dans nos plantations pour revaloriser la forêt ivoirienne.
Mamadou Sangaré, le directeur général de la Société de développement des forêts de Côte d'Ivoire, énumère quelques acquis.
La Sœur de Fort capitalise plus de 220 000 hectares de reboisement, toutes essences confondues. Plus de 60 000 hectares de parcelles agroforestières, plus de 2,5 millions d'hectares dotés des plans d'aménagement, soit 61% de la surface.
La politique de préservation, de réhabilitation du couvert forestier d'ici à 2030 est devenue une urgence en Côte d'Ivoire. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête. We'll be right back.